Sortie de boîte.
Arrivé dans les bureaux de mon invité entre Delémon et Courandelin, on me conduit dans une salle de réunion pour l'attendre. J'y découvre de nombreux objets de toutes sortes, de toutes tailles, utiles dans différents domaines qui ont tous un dénominateur commun. La matière de ces objets a été créée par InnoMaterials, dont la devise est « Si ça n'existe pas, nous l'inventons ». Tout un programme, on y reviendra plus tard. J'entends du bruit derrière la porte, des aboiements. Le chien de mon maître vient à ma rencontre, un golden retriever qui n'a pas l'air de m'apprécier. Heureusement, son maître est nettement plus chaleureux. Je découvrirai plus tard le reste des locaux qui comprend des bureaux, un laboratoire avec des presses en tout genre et surtout le bureau de mon invité dans lequel trônent quelques voitures en modèle réduit, une passion aussi liée à son parcours. Docteur Philomeno Corvachet, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
Docteur Philomeno, pardon, Corvachet, vous êtes originaire d'Italie, avez grandi en France, passé une partie de votre vie au Luxembourg et aujourd'hui vous habitez à Delémont. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce petit tour d'Europe. Tout d'abord, quelle est votre formation ?
Alors moi j'ai un doctorat en physique des matériaux que j'ai obtenu à l'université de Metz.
Une spécialisation particulière ?
Alors à l'origine, j'ai baigné dans les matériaux, futuristes, avancés. C'était les composites, mais des composites plutôt à base métallique.
Dès que vous avez terminé vos études à Metz, un grand groupe vous a repéré très rapidement.
Vous voyez, parce que dans l'industrie du pneumatique, il y a pas mal de câblages métalliques utilisés. Et puis, qui dit câblage, des certains procédés de mise en œuvre, il faut tréfiler. Et puis là, j'étais dans mon cours de métier pour comprendre le tréfilage des métaux. Et à l'époque, le manager de Goodyear, responsable du département matériaux, avait vu certaines qualités, chez moi. Voilà.
Donc, à l'époque, au sein de Goodyear, quelle était votre tâche ?
Alors à l'époque, j'ai toujours été exposé, à des challenges. Et j'ai démarré avec un petit groupe qu'on appelait Advanced Compounding, ce qui veut dire un secteur mélange de caoutchouc avancé. Donc c'était un groupe de 2-3 personnes dans l'industrie du caoutchouc pour les pneumatiques.
Donc ça, c'était au Luxembourg. Mm-hmm. Vous y avez passé 20 ans. Au bout des 20 années, vous étiez dans quel poste ?
Alors, j'y ai passé 20 ans, c'est vrai. C'est déjà une bonne partie de ma vie. J'ai commencé comme petit ingénieur docteur. Et puis, j'ai terminé à l'époque avec la responsabilité de ce qu'on appelait manager stratégique initiative. Il faut savoir qu'au sein de Goodyear, ce qu'on appelait les stratégiques initiatives, c'est où se développent tous les pneumatiques du futur. Aujourd'hui, on parle de, par exemple, c'est connu, je pense, les pneumatiques roulage à plat. On a plus de cinquième roue sur la voiture. Il y a des pneumatiques roulage à plat qui sont aptes à reprendre le poids du véhicule si jamais il y a une crevaison. Donc, à la fin de ma carrière, c'était une des plateformes. Par exemple, je coordonnais aujourd'hui beaucoup de composants qu'on a dans ces pneumatiques. C'est des composants que j'ai développés avec les teams.
Et par quel hasard vous êtes arrivé depuis le Luxembourg, du Luxembourg à Delémont ?
Alors ça, c'est une excellente question. À l'époque, j'étais au Salon de Genève de l'automobile où j'exposais différentes innovations écologiques dans l'industrie du pneumatique, les pneumatiques roulage à plat. Puis là, j'ai vu un journal qui s'appelait Le Matin Bleu à l'époque. Et puis j'ai vu un article où au sein de la société Biwi, on cherchait un directeur R&D. Donc et là, j'étais un virage ou un tournant important dans ma vie où on se posait quelques petites questions. Si
d'un point de vue personnel, donc.
Personnel, voilà. Quand on est dans le monde de l'innovation, c'est un peu une adrénaline et c'est un peu une drogue. Plus on innove, plus on devient amoureux de l'innovation et plus on est gourmand aussi. Donc j'ai vu au travers de cet article Matin Bleu et au travers de l'industrie suisse, toutes ces PME, j'ai vu d'énormes richesses en termes de possibilités d'innover. Parce qu'il y a énormément de secteurs qui sont touchés dans les métaux, dans les élastomères, dans le caoutchouc, dans les plastiques, dans les revêtements. Une infinité de possibilités d'innovation.
Donc, vous postulez chez Bioui à Glovelier, vous êtes embauché. Qu'est-ce que vous apporte ce premier contact avec le marché suisse?
Alors, ça m'a permis de découvrir, le micro, la micro-mécanique, les petites pièces. Je venais d'un secteur où, l'échelle d'un pneumatique, c'est beaucoup plus gros que l'échelle d'un bracelet ou du petit joint. Donc j'ai découvert toute cette industrie de transformation que je connaissais déjà, mais adaptée à de beaucoup plus petites pièces. Et puis j'ai découvert le médical, j'ai découvert les caoutchoucs en contact avec la peau, si on parle de bracelets. Donc j'ai rajouté d'autres cordes à mon arc, on va dire. Et j'ai découvert aussi l'industrie horlogère, la richesse de l'industrie horlogère, les innovations. La richesse des gens, parce que ce sont tous des gens très intéressants, où on a toujours à apprendre. Donc c'est un environnement qui m'a énormément plu.
Et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre société?
Alors j'ai très vite découvert que les matériaux, on va dire, c'est un peu une forme de cuisine. Nous sommes des cuisiniers, et comme dans la cuisine, il y a le cuisinier... de basse échelle, et puis après, le virtuose de la cuisine. Dans les mélanges caoutchouc, naturels, synthétiques, pour les plastiques, c'est la même chose. Y a des formulateurs qui vont astucieusement assembler différents ingrédients pour donner au produit final, la matière, des caractéristiques nouvelles. Peut-être une couleur atypique, un toucher, une odeur. Après peut-être des propriétés techniques, un glissement favorisé, une meilleure résistance à l'usure, etc. Donc tout se fait par la formulation. Donc là, il y a énormément de physique, beaucoup de savoir-faire, et ces formulateurs sont importants. Et j'ai découvert que c'était nécessaire au niveau de la Suisse, parce que toutes ces PME, ces industries. Quand elles recherchent un produit atypique, elles vont se retourner vers de grandes industries ou d'autres fournisseurs de matériaux, mais qui sont plutôt, en termes de volume ou échelle, quantité, sont dans des secteurs où le fait de développer peut-être les 5 ou 10 kilos de matière atypique, hyper sophistiquée, c'est presque inintéressant pour eux.
Donc, vous étiez à la tête d'un centre de recherche et de développement chez Bioui. Et puis, pourquoi créer votre propre société?
Parce que le secteur matériaux est un secteur qui n'existe pas vraiment. Aujourd'hui, le tissu industriel suisse, ce sont des transformateurs dans l'usinage, dans l'injection de pièces. Ils transforment des matières qu'ils reçoivent. Alors, juste imaginez si maintenant, on crée une cellule où... On adapte les matériaux avec la qualité, la propreté. On les adapte par rapport à des marchés horlogers ou autres pour faire quelque chose complètement atypique. Ce genre de partenaire n'existait pas. Donc, c'était une nécessité. L'innovation matériaux est une nécessité et un besoin.
Donc, vous avez créé InnoMaterials en janvier 2014. C'était d'abord une petite structure où vous ne fournissiez que des expertises?
Alors la première année, ça a été le cas, ça a été une année où on fournissait de l'expertise dans l'industrie horlogère, dans le recyclage et bien d'autres sujets non horlogers. Par contre, en 2015, on a été approché par Solvay, qui était intéressé de par notre savoir-faire de formulateur. Et de là, pendant 2015, il y a eu un très très gros travail où Solvay nous a mandaté, où j'avais à disposition des équipes de chez Solvay pour mettre au point les formulations, du futur, pour applications horlogères, mais aussi pour d'autres applications. Et fin 2015, là, c'est un autre virage important parce qu'on a commencé à mettre en place une division laboratoire de mélangeage et une division production à une échelle horlogère en termes de volume.
Donc aujourd'hui, vous êtes 5. Que fournit votre équipe ?
Alors, les éléments, ces 5 personnes sont, on va dire, des virtuoses. Je vais les flatter, mais c'est une réalité. C'est des chefs de projet qui ont des multicasquettes. Ils gèrent vraiment l'aspect formulation et ils ont la compétence aussi pour la transformation, la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on contrôle et on met au point nos propres formulations, mais ils sont en contact au niveau européen avec toutes sortes de laboratoires d'homologation, de tests, de transformation, de traitement, de surface, de mise en œuvre, de création de pièces de toutes sortes. Et ils ont des activités dans le monde horloger, mais pas uniquement. Ça touche au médical, ça touche aux peintures... Ça touche peinture anti-moustique, par exemple, le béton acoustique.
Je vous propose maintenant d'écouter la réponse de vos collaborateurs à cette même question. Que produit l'équipe d'Inno Materials ? Jean-Michel Props s'est rendu dans vos locaux en compagnie tout d'abord de Julien Dahan, chef de projet.
Sortie de boîte.
Dans le laboratoire, on prépare nos différentes formules, hein, un peu comme une recette de cuisine. Attenant au laboratoire, il y a toute la partie production où on peut sur la commande des clients produire. Donc là, en l'occurrence, des caoutchoucs.
Alors, Liliane Corvache, vous pouvez nous dire ce que vous faites là devant cette machine?
Là, je vais mettre un bout de caoutchouc pour le mélanger à travers les rouleaux et préparer le mélange de caoutchouc. Donc là, voilà, ça va se mettre autour du rouleau et puis on le récupère et on le remet entre les deux rouleaux.
Voilà, c'est une sorte de presse. Le caoutchouc qui est là, on peut dire que c'est du caoutchouc pur ou qui a déjà été travaillé?
Alors celui-ci, il a déjà été travaillé, il est déjà mélangé avec différents additifs.
Et ça, c'est en fonction du projet qui a été mis en place avec le client qui vous a fait une demande bien spécifique.
Voilà, exactement. Alors en fonction des demandes de clients, nous on va choisir la matrice, donc le caoutchouc, et puis venir intégrer les différentes particules dans le caoutchouc pour par exemple avoir des effets ou des odeurs, ou voilà, différents types.
Julien Dahan, ici chez Inno Materials, qu'est-ce qu'on peut vous demander comme projet ?
Alors nous, on n'intervient vraiment que sur les matériaux, c'est-à-dire la matière première, c'est-à-dire qu'un client, qu'il soit dans l'horlogerie, le médical ou tout autre domaine, le militaire ou autre, l'électronique, il va se présenter à nous avec une problématique particulière sur un matériau. Ça peut être un type de plastique, un béton, un caoutchouc également, bien sûr, ou un métal. Et donc là, on va faire intervenir la science des matériaux pour essayer de répondre à sa problématique. Bien souvent, on part d'un matériau existant et puis on va essayer de l'améliorer. Mais parfois, on recrée complètement tout depuis la base. Les bracelets de montre, pour répondre à votre question, que vous voyez, c'est le résultat de notre recherche, mais ce n'est pas nous qui fabriquons les bracelets. Voilà, nous, on ne vend que les matières premières.
Marie Palmieri, vous êtes docteur en chimie. On a devant nous une valise qui comporte quelques bracelets, quelques flacons. C'est avec cette valise-là que vous allez chez un client?
Alors, tout à fait. Donc, cette valise, en fait, représente finalement la société, montre, en fait, les différents projets sur lesquels on travaille. Donc, on a le produit final, par exemple, des bracelets, différentes choses, mais on a aussi les ingrédients de base. On a aussi toute une partie de parfumée. Donc là, on a les parfums, où on va, avec un système de charge portée, porteuse l'intégrer dans nos caoutchoucs. On a aussi des poudres plus naturelles, parce qu'on a toute une partie aussi où on développe des caoutchoucs avec des charges naturelles, de cellulose, de bois, etc.
C'est quand même assez rare d'imaginer un bracelet de montre en caoutchouc qui est parfumé.
Alors, ce projet, en fait, donc c'est un développement interne chez InnoMaterials. Le but étant d'avoir un caoutchouc parfumé, mais durable. On a mis ça dans le caoutchouc, mais avec des partenaires, on travaille pour l'intégration de cette poudre dans du plastique. Et voilà, on a vraiment, avec ce procédé-là qui a été breveté, on a une durée de vie de plusieurs années de ce parfum dans nos matériaux.
Sortie de boîte.
Docteur Philomène Corvachet, on parle beaucoup de caoutchouc synthétique, d'élastomère. Alors, qu'est-ce que c'est l'élastomère ?
L'élastomère, on va dire, c'est un matériau souple qui peut prendre les apparences du métal, à condition d'y trouver les bons additifs, mais c'est un matériau qui accepte de l'élongation, qui peut être résistant, qui peut être souple, mais résistant. Et puis qui peut être mise en forme. Donc, ce n'est pas un produit qu'on va usiner, bien qu'on peut aussi, on pourrait aussi l'usiner, mais c'est un produit qu'on peut mouler, injecter.
Mais InnoMaterials ne fait pas que ça, pas que du caoutchouc synthétique.
Non, on a des projets où on travaille sur du 100% biosourcé. On travaille aussi sur des plastiques, des métaux que l'on va traiter. On travaille sur des colles. Base liquide, base eau. On ne travaille pas uniquement que dans le secteur des élastomères, c'est vrai. On a des projets dans le médical aussi, sur des bioplastiques biocompatibles. Voilà, la science des matériaux, la physique, la chimie, elle est universelle. On peut l'appliquer après à tous les produits.
Vous parlez de matériaux biosourcés, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les matériaux biosourcés, ce sont des matériaux issus de ressources renouvelables. Par exemple, la fibre de canne à sucre, les résidus de canne à sucre. La fibre de canne à sucre pourrait être utilisée pour devenir une nouvelle source de renforcement. Les fibres de cellulose dispersées dans un élastomère pour protéger de la coupure, par exemple. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de produits dans la nature qui auront, en termes de chimie et de molécules, les mêmes caractéristiques que les produits synthétiques, c'est juste qu'il faut savoir les utiliser intelligemment.
Vous pouvez me donner un exemple concret d'un produit que vous avez aidé à développer, dont vous êtes à la base du matériel ?
Alors, il y a différents volets comme cela. Il y a un volet dans Goodyear, où j'avais été le premier dans l'industrie du pneumatique à utiliser une charge nano-biosourcée. Et qui permettait de faire des pneumatiques qui consomment moins de carburant, et puis qui durent plus longtemps, et puis qui absorbent du CO2 aussi. Après, dans les applications actuelles, on est sur des fibres de cellulose qui améliorent les propriétés, on est sur des huiles biosourcées, on est aussi sur du recyclage de caoutchouc, voire des bactéries qui aident à dévulcaniser le caoutchouc. On a été impliqué aussi dans ce genre de projet. Donc, on utilise les bactéries pour donner une nouvelle vie à certains produits.
Votre devise, c'est « si ça n'existe pas, nous l'inventons ». C'est du pipeau ou c'est vrai ?
Non, c'est vrai. C'est avant tout un monde de passionnés. Et en tant que passionné, on aime bien relever les challenges. Donc, on aime bien développer des produits qui ne sont pas sur le marché. C'est d'ailleurs notre spécificité. On invite tout le monde à venir nous trouver pour exposer leurs problématiques. Et nous, on apporte notre regard de physicien, chimiste. Et on va chercher l'additif ou la combinaison qui fait que tout d'un coup, le produit va prendre une toute nouvelle valeur.
On l'a déjà un peu évoqué, mais quels sont les clients d'InnoMaterials ?
Alors aujourd'hui, les clients, c'est les transformateurs horlogers, c'est aujourd'hui dans le pneumatique aussi, on a des applications en cours avec de grandes sociétés dans l'agriculture, des pneumatiques de l'agriculture, des pneumatiques intelligents. On est dans le médical, pour des assemblages de bioplastique et comment on peut donner à ces assemblages de bioplastique à certains amortissements qui pourraient devenir, par exemple, un composant de la colonne vertébrale ou une vis biocompatible. On est dans les lubrifiants, on est dans les peintures.
Mais l'horlogerie, c'est vraiment le secteur de prédilection?
Alors, l'horlogerie reste un secteur où on a énormément de passion et d'amour par rapport à ce produit, parce que l'horlogerie reste quand même le berceau de l'innovation. Beaucoup de technologies très avancées, même si c'est à une échelle plus petite, sont quand même utilisées dans l'horlogerie. Et donc, une société comme InnoMaterial peut trouver un fort épanouissement à travailler dans le monde de l'horlogerie.
En parlant d'horlogerie, je vous propose d'écouter la chronique de Marie-Lise Saillard-Pile à l'heure qui évoque la mesure du temps.
Pile à l'heure. 3600 fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi.
Voilà ce que Charles Baudelaire nous dit au XIXe siècle dans son poème intitulé « L'horloge ». Dans ses vers, l'horloge est comparée à un dieu sinistre, effrayant, impassible. Un peu plus loin dans son texte, Baudelaire parle d'un autre instrument de mesure du temps.
« Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. »
Clepsydre, voilà un mot que certains d'entre vous ont découvert devant leur écran de télévision. Dans Fort Boyard, un candidat enfermé dans une cellule pour y disputer une épreuve a un délai à ne pas dépasser sous peine de rester prisonnier. Le temps maximal à passer pour chaque épreuve est mesuré grâce à une clepsydre. Ce système existe depuis l'Antiquité. Du liquide passe d'un récipient à un autre grâce à un trou percé dans le premier. Certains confondent parfois avec un sablier, mais dans un sablier, comme son nom l'indique, c'est du sable qui passe d'une partie à l'autre, pas de l'eau ou un autre liquide. Du sable donc, comme dans la dernière strophe de ce poème d'Hubert Taddeo Félizé.
Inlassablement, je retourne au sablier et je prends le temps de regarder, grain à grain, à travers le verre, tomber comme j'égrène une terre.
Et les montres ne sont pas en reste. Théophile Gautier, par exemple, y a consacré un poème.
Et je ne vois plus dans sa boîte le fin ressort du balancier. Aller et venir, à gauche, à droite, ainsi qu'un papillon d'acier.
Outre la poésie, la montre figure aussi dans la peinture. Un célèbre exemple est le tableau « La persistance de la mémoire », plus connu sous le nom « Les montres molles », œuvre du fantasque Salvador Dali.
« Je suis fou !»
Ce tableau représente une plage agrémentée de montres à gousset qui se déforment et fondent comme du camembert bien fait.
« Ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner.
Et comme on dit que l'art est partout, il se pourrait bien que vous en ayez à votre poignet.
Pile à l'heure.
Filomeno Corvace, ça fait à peine 4 ans que vous avez créé votre société. Quel est l'objectif que vous fixez en termes de taille?
En termes de taille, avoir un système qui converge vers 8-10 personnes, parce qu'aujourd'hui, on agit un peu comme un Google, avec un réseau qui est quand même important, avec... de grands groupes qui travaillent à nos côtés aussi. Donc, l'objectif est à maximum 10 personnes.
En préparant l'émission, vous m'avez dit que vous avez quitté Goodyear car le monde du pneu était trop restreint. Vous ne craignez pas le même effet avec le secteur de l'horlogerie?
Non, le monde de l'horlogerie, il est infini. C'est les couleurs, c'est le toucher, c'est... les mécanismes et tout nécessite, toute innovation nécessite des matériaux innovants. Donc, c'est infini.
Docteur Filomeno Corvaceo, nous arrivons déjà au terme de notre demi-heure consacrée à Innomaterias. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Merci à vous.
Si vous avez manqué un passage de cette émission, vous retrouvez le podcast sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte prend des vacances et revient le 17 mai avec Alizé Lichti qui présentera à la société Jean Kites. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonne soirée.